Épître aux Romains, chapitre 6.
Lecture de la parole. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'ainsi n'advienne. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci, et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Qu'ainsi n'advienne. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Or, grâce à Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce que ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car les gages du péché c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Lecture de l'étude. Dans ce chapitre, le Saint-Esprit conduit l'apôtre à répondre à quelques objections que la chair ou l'incrédulité soulève en présence de la grâce de Dieu telle qu'elle vient d'être dépeinte. Ces objections nous montrent de nouveau les abîmes du cœur humain, mais en même temps elles fournissent l'occasion à l'apôtre de développer de nouvelles et merveilleuses pensées. Voici la première objection. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 1. Quoi? Est-ce là la conséquence que nous devons tirer de l'évangile de Dieu? Devrions-nous accumuler péché sur péché pour que la grâce, en les pardonnant, se déploie plus richement? Indignés, nous répondons avec l'apôtre qu'ainsi n'advienne. Que dirions-nous d'un fils qui, par un manque de respect, transgresserait les commandements de ses parents et affligerait leur cœur, afin de leur donner ainsi toujours plus d'occasion de lui pardonner. Pourtant, la question de l'apôtre montre jusqu'à quel point le cœur de l'homme peut être endurci. Oh, qui pourra connaître les profondeurs et les ruses de ce cœur ? L'apôtre, dans sa réponse à la question, ne montre pas l'impiété manifeste d'un tel principe. Il présente plutôt le point de départ du chemin de tout homme qui se réclame de Christ. Il pose cette question. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ? Verset 2. Le chrétien, qui vivait autrefois dans le péché, a trouvé dans la mort de Christ bien plus que le pardon de ses péchés et de ses transgressions. Il est mort avec Christ, et par ce moyen a été retiré une fois pour toutes de l'ancienne condition dans laquelle il se trouvait. Il est mort au péché, et ne se trouve plus désormais sous sa domination. Christ, à la croix, a été fait péché pour lui, et par ce moyen, il en a fini pour toujours avec le vieil homme qui s'est toujours montré mauvais. Un nouvel homme, une nouvelle création ont été révélées, une vie entièrement nouvelle a été manifestée et donnée aux croyants. Comment pourrait-il maintenant encore demeurer dans le péché qui l'aurait séparé à toujours de Dieu et qui a amené son Seigneur et Sauveur dans la mort ? Est-ce qu'une telle action ne serait pas incompréhensible et contraire à tout sentiment moral ? Outre cela, les croyants de Rome avaient déjà confessé par leur baptême qu'ils avaient été identifiés avec la mort de Christ. Ignorez-vous, en d'autres mots, ne connaissez-vous pas la signification symbolique du baptême ? Que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort, verset 3. Le baptême n'est pas seulement le témoignage de la mort de Christ pour nous, mais aussi de notre mort avec lui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, verset 4. Le chrétien n'a pas été mis en relation avec un Christ vivant sur la terre. Une telle relation n'était pas possible. Voir Jean 12, verset 24.
En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Il ne place pas non plus son espérance, comme le Juif, en un Messie régnant sur la terre, mais il confesse sa mort qui a eu lieu en même temps que celle de Christ, en ce que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, et cette mort est la fin de notre état désespéré comme homme dans la chair. Notre but est de marcher désormais en nouveauté de vie, comme un homme ressuscité avec Christ, de même que Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. Il en résulte tout naturellement et logiquement une marche en nouveauté de vie. L'apôtre ne nous donne pas un commandement, mais il appuie sur notre situation entièrement changée. Ainsi, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'expression « par la gloire du Père » nécessite encore une courte explication. Elle ne signifie pas simplement que Dieu s'est glorifié dans la résurrection de Jésus. C'est le Père que nous avons ici, agissant vis-à-vis de son Fils. Le Père devait à sa propre gloire, disons-le avec tout le respect nécessaire, de ressusciter d'entre les morts le Fils qu'il avait glorifié en toutes choses, après l'accomplissement de son œuvre. Tous les conseils du cœur du Père étaient et sont en rapport avec cette œuvre, et tout son désir était également la glorification de son Fils. Remarquons cependant que l'Épître aux Romains ne considère pas la résurrection du croyant avec Christ comme un fait accompli, mais sa mort avec lui. Il tire la conclusion qui est une conséquence de cette remarque. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection, verset 5. Nous trouvons une explication à ceci dans le fait que le Saint-Esprit considère les croyants dans cette épître comme vivants sur la terre et non pas comme transportés en Christ dans le ciel suivant l'épître aux Éphésiens. Ce n'est que la première partie de la précieuse vérité de notre union avec Christ dans la mort et la résurrection qui est développée ici. La seconde en est déduite comme conséquence de la première. Si nous participons à la mort de Christ, la vie qui en découle doit être notre part. Notre ancien moi est mort. Notre nouveau moi, c'est Christ. C'est pourquoi il est logique pour nous de marcher en nouveauté de vie. Comme ensevelis avec Christ par le baptême, il nous convient de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, notre état précédent, soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché, verset 6. L'homme naturel sert le péché, c'est son essence, c'est sa nature. La nature du croyant, c'est de ne pas servir le péché, car celui qui est mort est justifié du péché, verset 7. Pour un être mort, il ne peut plus être question de péché, il est mort. C'est là l'enseignement extrêmement important que le Saint-Esprit donne ici aux croyants, un enseignement, sans aucun doute, qu'il faut saisir par la foi tout aussi bien que la vérité de la délivrance, et c'est une chose qui est cependant si peu comprise. Il s'agit là d'un fait qui s'est accompli en dehors de nous, d'une délivrance dont Dieu rend témoignage aux croyants, aussi bien que du pardon de ses péchés. Nos expériences pratiques semblent certes le contredire continuellement. Pourtant, ce fait s'accorde avec la sagesse et la sainteté de Dieu, et il donne la grâce à ceux qui étaient autrefois esclaves du péché, d'accomplir désormais la sainte volonté de Dieu. Au verset 8, la conséquence dont nous venons de parler s'étend à l'avenir. Nos corps aussi auront part à la résurrection d'entre les morts. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Sachant, dans la conviction la plus intime de nos âmes, que Christ, une fois ressuscité d'entre les morts, est sorti pour toujours de la puissance de la mort qu'il a vaincue, nous avons la pleine assurance de foi que nous vivrons aussi avec lui. Cette vie de résurrection trouve déjà maintenant son expression dans une nouvelle marche qui se modèle sur celle de Christ, avec une grande imperfection, cela va sans dire. Elle ne sera accomplie que dans la gloire, car nous nous trouverons devant Dieu sans reproche, corps, âme et esprit. Il a semblé pour un moment que la mort tenait notre Seigneur et Sauveur sous sa puissance. Il a dû descendre dans la mort et le tombeau afin de glorifier Dieu, de juger le péché, de détruire la puissance de Satan et de nous délivrer. Car, en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché. Mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. Verset 10. Si Satan a paru pour un court moment triompher, c'est néanmoins notre Seigneur qui a eu la victoire. Ressuscité d'entre les morts, Christ ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, et nous récoltons le fruit de sa victoire. Combien cette victoire lui a coûté cher, combien émouvante est la pensée que celui qui était parfaitement saint et sans péché a dû, pour prendre notre cause en main, se mettre entièrement à notre place et être fait péché pour nous. Personnellement, il n'avait pas besoin de devenir autre que ce qu'il était. Toutefois, parce qu'il prenait en grâce volontairement notre responsabilité sur lui, il dut être traité par le juge divin comme s'il l'avait été dans l'état dans lequel nous nous trouvons par nature, c'est-à-dire comme étant péché. C'était là la coupe terrible qui était devant son âme sainte à Gethsémané. Il dut mourir au péché, comme notre substitut, goûter dans toute son horreur la mort comme salaire du péché. Dieu soit loué, l'œuvre sublime est accomplie. Celui qui fut abandonné de Dieu pour nous est maintenant glorifié à la droite de Dieu. Mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. Et nous pouvons dire avec allégresse que nous avons part avec lui à cette vie. Pour cette raison, l'apôtre peut nous dire aussi, de même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus, verset 11. Ce n'est pas seulement un droit que nous avons, mais nous sommes appelés aussi à agir et à marcher dans la fidèle réalisation de cette vérité. Puissent les enfants de Dieu saisir davantage par la foi cette vérité et en expérimenter la puissance dans leur vie et leur marche. Combien cela glorifierait Dieu, honorerait son Fils et remplirait leur propre cœur de reconnaissance et de joie. Celui qui a compris cette vérité et qui la réalise est un chrétien heureux et affranchi, qui reçoit avec reconnaissance l'exhortation suivante de l'apôtre et trouve une profonde satisfaction à la réaliser dans toute sa vie. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci, et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité. Mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instruments de justice, versets 12 et 13. Appuyons encore une fois sur le fait que le chrétien ne doit plus mourir au péché, mais qu'il est mort à ce dernier, étant crucifié avec Christ. Il n'est pas délivré de certains péchés ou de mauvais penchants, mais le vieil homme entier a été mis de côté et jugé à la croix. Remarquons en même temps que cet état de mort avec Christ n'a pas comme conséquence pour nous la destruction de notre vieille nature. Le péché est et reste en nous, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. 2 Corinthiens 4, verset 7. S'il en était autrement, il ne nous serait pas dit « Tenez-vous vous-même pour morts au péché » ou « Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel ». Le péché est bien encore en nous, mais nous ne sommes plus soumis à sa domination. Sa puissance est brisée. Un chrétien peut pécher, mais il ne doit pas pécher. Il ne doit même pas avoir une seule pensée impure. Il péchera s'il n'est pas vigilant, mais si la nouvelle vie et la puissance du Saint-Esprit opèrent en lui, il n'a plus besoin de servir en aucune manière sa vieille nature. Combien il est précieux de penser que le même homme qui autrefois haïssait la lumière l'aime maintenant. Délivré de son ancien maître, le chrétien est capable et libre aussi de se consacrer à un nouveau maître. Et lequel choisira-t-il? Auquel se consacrera-t-il? Il dira, « Il me suffit d'avoir accompli, dans le temps déjà écoulé, la volonté des nations. » Voir 1 Pierre 4, verset 3.
« Car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps déjà écoulé la volonté des nations alors que nous marchions dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les excès dans le manger et le boire, et les criminelles idolâtries. »
Dieu a pris en lui la place de Satan, la justice la place du péché. Autrefois esclave de Satan, serviteur des convoitises de son corps mortel, il peut maintenant se livrer lui-même à Dieu, comme d'entre les morts, étant fait vivant, et ses membres, œil, oreille, langue, main, pied, etc., qu'il employait autrefois comme instrument d'injustice, il peut maintenant les mettre avec joie au service de Dieu, comme instrument de justice. Changement merveilleux. Nous comprenons sans doute que c'est la grâce seule qui a pu le produire, et que c'est aussi la grâce qui peut nous maintenir dans la réalisation de notre nouvelle position et nous y faire croître. Or, cette grâce est là à notre disposition, et nous pouvons y puiser jour après jour, heure après heure. Nous n'avons pas, comme on le pense en général, à améliorer graduellement notre vieille nature. Non, nous nous sommes livrés nous-mêmes en un acte unique, mais d'un effet permanent à Dieu comme vivant d'entre les morts, et nos membres à Dieu comme instruments de justice. C'est sur ce fondement que nous sommes placés en Christ, et nous avons à nous y tenir et à y rester continuellement par la foi. Car, continue l'apôtre, le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Verset 14. Dieu soit béni pour ces paroles, surtout à la fin d'un paragraphe qui nous a avertis si sérieusement de ne pas abuser de la bonté de Dieu et de la liberté du chrétien. Cela répondrait mieux sans doute à nos pensées humaines que l'apôtre parle dans ce passage de tout le sérieux des cinq commandements de Dieu. Mais non, de même que seule la grâce sauve, seule aussi la grâce donne la force pour une marche digne de Dieu, tandis que la loi ne donne ni vie ni force. En 1 Corinthiens 15, verset 56, elle est appelée même la puissance du péché, parce qu'il est manifeste que, par ses défenses, elle excite les convoitises et les passions de la chair. Si nous étions sous la loi, le péché exercerait encore sa domination sur nous, mais Dieu soit loué, nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi il peut nous être dit que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, et tout de suite après cette parole de consolation, le péché ne dominera pas sur vous. La même grâce qui nous a délivrés du péché nous donne la force de ne plus servir les convoitises de la chair, mais de marcher désormais en nouveauté de vie. Le chrétien est libre de se consacrer à Dieu et de le servir. C'est là l'enseignement simple et précieux de ce passage de la parole qui est malheureusement si peu comprise et considérée. Cependant, on objecte. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Verset 15. L'apôtre répond de nouveau par son énergique « qu'ainsi n'advienne ». Il réfute ensuite l'objection, non pas, comme dans la première question du verset 1, en montrant notre mort avec Christ, mais en montrant quelle mauvaise et vile disposition d'esprit une telle manière d'agir révélerait. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Verset 16. Il n'y a pour le chrétien qu'une sérieuse alternative, pas de compromis, pas de chemin intermédiaire. Autrefois esclave du péché, il est appelé maintenant à se maintenir fermement dans la liberté dans laquelle Christ l'a appelé, et à suivre l'exemple que son maître lui a laissé. Un cœur reconnaissant salue cet appel avec joie. L'amour ne désire pas qu'il en soit autrement. Délivré de l'esclavage du péché qui menait à la mort, le chrétien se nomme maintenant avec plaisir esclave de Jésus-Christ, ou, comme l'apôtre l'exprime ici, esclave de l'obéissance pour la justice. Quelle vie et quel résultat! C'est précisément ce que nous voyons en perfection chez notre bien-aimé Sauveur, le vrai et parfait serviteur. En nous, tout est imperfection, mais néanmoins nous obéissons en suivant son exemple avec le désir de manifester une justice pratique et une marche selon la volonté de Dieu. Aussi pouvons-nous nous écrier avec joie, « Or grâces à Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce que, ensuite, vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Verset 17. Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes dans notre nouvelle position. Comme créatures, nous ne pouvons jamais être indépendants ni nous suffire à nous-mêmes. Nous avons besoin d'un objet pour nous former d'après lui, d'un modèle à imiter. Cet objet, ce modèle, c'est Christ, en qui Dieu s'est manifesté. Le Saint-Esprit, qui nous a engendrés à nouveau par le moyen de la parole, présente constamment Christ à nos regards en nous faisant jouir des choses qu'il nous a communiquées dans la parole. Ainsi, contemplant Christ, et ayant dans nos cœurs le désir d'obéir à la forme de doctrine dans laquelle nous avons été instruits, notre esprit, notre être tout entier sont transformés en cette image qui nous est donnée dans la parole. Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes à cause de l'infirmité de votre chair, verset 18-19. Le Seigneur dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Libérés du premier maître, nous sommes entrés avec le second dans une relation qui ne peut plus jamais se rompre. Ce que la loi ne pouvait accomplir, comme nous l'avons déjà dit souvent, la grâce l'accomplit, en produisant dans la vie pratique du croyant ce qui a été vu en Christ en perfection. Le croyant est entièrement libre, et cependant il est un esclave volontaire de Christ, un être asservi à la justice, corps et âme. Au lieu d'abuser de la liberté à laquelle il a été amené, il en profite pour accomplir ce que la loi n'a pu produire avec toutes ses menaces et ses promesses. S'il a autrefois livré ses membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, il les livre maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté, verset 19. L'apôtre, en parlant ainsi, le fait à la façon des hommes à cause de l'état de faiblesse spirituelle des Romains. Peut-être auraient-ils encore tiré de fausses conclusions de ces enseignements s'ils ne leur avaient pas rappelé avec tant d'insistance la sainte obligation de marcher dans la sainteté. Ils étaient libres et cependant asservis, libérés du péché, non pas pour accomplir désormais ce qui leur plaisait, mais pour servir la justice dans une sainte crainte. Dans les deux conditions, il y a un but et une croissance. Dans le premier cas, le but était une impiété toujours croissante, la séparation de Dieu dans l'orgueil et la propre volonté. Dans le second cas, une sainteté croissante aussi et une mise à part pour Dieu dans l'humilité et l'obéissance. L'homme naturel aime le mal et hait la lumière, tandis que l'homme spirituel hait le mal et aime la lumière. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? Car la fin de ces choses est la mort, versets 20 et 21. L'esclavage, dans lequel les croyants se trouvaient autrefois, avait exclu entièrement tout service de la justice, même tout rapport avec cette dernière. Et quel fruit avaient-ils eu autrefois de leur activité? Que leur avaient rapporté les choses qu'ils avaient faites? Rien que honte et affliction. Et la fin de ces choses était la mort. Asservis à Dieu, cette expression est le point culminant de l'enseignement de l'apôtre dans ce passage. Nous n'avons pas été amenés seulement à aimer la justice et à la rechercher, mais à Dieu lui-même dans les relations les plus proches. C'est à lui, en un mot, que nous devons consacrer toutes les forces de nos corps et de nos âmes. Nous n'avons pas reçu une série de commandements comme règle de notre conduite. Nous lui sommes soumis à lui-même, tel qu'il s'est manifesté dans sa parole. C'est par son esprit que nous apprenons à comprendre toujours plus clairement sa volonté et, par la grâce, à l'accomplir. Telle est la sphère dans laquelle nous pouvons manifester notre obéissance et, en marchant dans cette sphère, nous avons notre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Heureux changement ! Autrefois les œuvres ténébreuses de la chair nous caractérisaient, tandis qu'aujourd'hui nous pouvons produire le fruit de l'esprit qui ne consiste qu'en de bonnes choses, contre lesquelles il n'y a pas de loi. Galates 5, versets 19 à 23.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi.
Autrefois, nous ne portions aucun fruit, nous n'avions que des pensées, des paroles et des œuvres mauvaises. Maintenant, nous portons du fruit pour la gloire de Dieu, et qui nous fait croître dans la sainteté. Étant nés de Dieu, nous sommes, quant à notre position, sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ, par la parole de Dieu et par l'habitation du Saint-Esprit. Aussi, nous pouvons être appelés saints et bien-aimés, mais pratiquement, nous avons besoin de la sanctification. Nous la réalisons en remplissant nos cœurs de la personne de Christ, qui remplit le cœur du Père, et qui a fait continuellement, jusqu'à la mort de la croix, ce qui est agréable à Dieu. Asservis à Dieu. Oh, puissions-nous apprendre à comprendre et à réaliser toujours mieux cette parole, afin que notre fruit croisse, et que, sur le chemin de la gloire, nous soyons transformés de plus en plus à l'image de celui qui a marché autrefois ici-bas, en glorifiant le Père, et que nous contemplons, à face découverte, maintenant en haut dans sa gloire. 2 Corinthiens 3, verset 18.
Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit.
Pour fin la vie éternelle, le but précieux de ce chemin béni, la couronne qui nous attend, c'est cette gloire elle-même. Bientôt nos corps aussi, la maison terrestre, seront rendus conformes à son corps glorieux, et alors nous porterons entièrement et éternellement l'image de celui qui nous a aimés et nous a acquis la vie éternelle. Chapitre 8, verset 29.
Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères.
Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Verset 23. C'est avec ces paroles que l'écrivain termine le cours merveilleux de ses pensées. En un mot, il place encore une fois devant nos yeux les résultats du travail de l'homme et ceux du travail de Dieu. Nous avions mérité la mort comme triste gage de notre pauvre travail. La grâce nous a donné la vie éternelle, libre don de Dieu que nous n'avions pas mérité, et cela en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous la possédons aujourd'hui déjà dans le Fils. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et celui qui a le Fils a la vie. Autrement, nous serions absolument incapables d'avoir communion avec Dieu. Toutefois, la vie éternelle, dans les conseils de Dieu, signifie encore plus que cela. C'est la conformité parfaite avec le Fils de l'homme glorifié dans le ciel. C'est là que cette vie sera bientôt pleinement manifestée. Voici donc ce qui est placé devant nous, le don de grâce de Dieu, à savoir la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur.